Bah, d'un côté, on a les données de SparkToro pour le début de cette année 2025-2026. Et franchement, le tableau est assez implacable. On parle de 60% des recherches classiques qui génèrent plus aucun clic.
Ouais, c'est énorme. Zéro clic, rien du tout.
C'est ça. En gros, l'utilisateur pose sa question, il lit la réponse directement sur la page de résultats et il s'en va. Et quand une synthèse générée par un modèle de langage apparaît tout en haut de l'écran, bah cette absence de clic, elle grimpe carrément à 83%.
Ce qui donne envie de tout arrêter, quoi, de se dire que l'acquisition de trafic organique, c'est plié.
Exactement. C'est l'instinct naturel. Sauf que, de l'autre côté, on a une étude récente d'Adobe qui montre une réalité parallèle complètement folle. Le trafic envoyé spécifiquement par ces mêmes moteurs génératifs vers les sites e-commerce, il a explosé de 4 700% en l'espace d'un an.
C'est vraiment un contraste de dingue, en fait. Le robinet du trafic web tel qu'on le connaît depuis 20 ans a l'air de se fermer d'un coup.
Ouais.
Et pendant ce temps-là, on a un nouveau canal avec des règles de distribution totalement différentes qui s'ouvre avec une force inouïe.
Et c'est pile le sujet de notre décryptage d'aujourd'hui. Face à ces deux dynamiques complètement contraires, bah la question pour tous les e-commerçants, c'est de savoir comment allouer leur budget.
D'accord.
Est-ce qu'Edouard compte continuer à financer le référencement naturel classique, le fameux SEO, pour essayer de gratter les clics qui restent? Ou est-ce qu'ils doivent pivoter entièrement vers le GEO, l'optimisation pour ces moteurs génératifs?
C'est la grande question du moment.
Absolument. Et pour décortiquer ça, on va plonger dans un article hyper intéressant rédigé par Samy B du cabinet Vanguard Edge Consulting.
Ouais, un vrai praticien qui a les mains dans le cambouis, quoi.
C'est ça, il gère l'acquisition de plus de 40 boutiques en ligne. Et sa thèse principale, bah, elle vient bousculer pas mal d'idées reçues. En gros, il dit qu'opposer l'optimisation classique et l'optimisation générative, ça n'a aucun sens.
Ouais, le document démontre super bien que considérer ces deux approches comme des concurrentes, bah c'est une grosse erreur d'analyse. Ce sont en fait deux couches indissociables d'une seule et même présence numérique.
Tout à fait.
Mais bon, avec la pression des chiffres, surtout cette hausse de 4 700% dont tu parlais, ça pousse plein de professionnels à vouloir sauter les étapes. L'attrait pour la nouveauté de l'algorithme fait oublier les bases.
Bah, je me disais, c'est un peu comme si un chef de chantier se demandait s'il devait investir dans les fondations en béton ou dans la toiture dernier cri.
Grave, la question n'a aucun sens.
Bah oui, la toiture, elle va pas tenir en lévitation, quoi. Sans fondation, tout s'effondre. Et pourtant, l'article de Vanguard Edge Consulting explique bien pourquoi la tentation de passer direct à la toiture est si forte.
À cause de la qualité du trafic, ouais.
C'est ça, les données de l'étude EGEO montrent que les visiteurs qui viennent des réponses générées ont une durée de visite supérieure de 32%. Et le taux de rebond, genre les gens qui partent sans cliquer, il chute de 27%.
Ouais, et cette différence d'engagement, elle s'explique vraiment par la psychologie d'utilisateur. Quand quelqu'un arrive sur une boutique via une réponse générée, bah, il a généralement formulé une requête longue, hyper complexe.
Il sait ce qu'il veut.
Exactement. Il a lu une synthèse détaillée, il a comparé des options et il a délibérément choisi de cliquer sur une citation précise pour aller plus loin. Le besoin a déjà été qualifié par la conversation avec la machine.
Donc l'intention d'achat est beaucoup plus mature.
Voilà. C'est hyper compréhensible qu'un e-commerçant veuille capter cette audience-là tout de suite et laisse tomber l'optimisation classique qui met des mois à marcher.
Sauf que... Et c'est là que c'est intéressant, l'article qualifie cette stratégie d'erreur structurelle profonde. Et la raison, bah, elle touche directement à l'architecture de ces nouvelles technologies.
Ouais, la mécanique de base, quoi.
Ces grands modèles de langage, que ce soit ChatGPT, Perplexity ou d'autres, ils fabriquent pas la connaissance à partir du néant.
Ah non, leur fonctionnement repose sur l'ingestion massive de données. Pour qu'un modèle puisse recommander un produit ou citer une boutique, il faut déjà qu'il ait lu les infos de cette boutique.
Logique.
Et ces modèles s'appuient sur les énormes bases de données des robots d'exploration traditionnels. La règle, elle est brutale en fait. Si une page bloque les robots d'indexation classiques, elle restera un angle mort total pour les moteurs génératifs.
Ce qui me ramène à une donnée de l'article que j'ai trouvée hyper intrigante. Lily Ray a fait une étude qui montre que le chevauchement entre le top 10 classique et les sources citées par le génératif, bah c'est moins de 10%.
Ouais, c'est très faible.
Mais attends, si 9 fois sur 10, les moteurs génératifs choisissent d'autres sources que les résultats classiques, est-ce que ça prouve pas justement qu'ils utilisent des critères totalement différents?
C'est ce qu'on pourrait croire, ouais.
Du coup, développer une stratégie séparée dès le premier jour, ça paraît très logique, non?
Alors, l'argument paraît super logique en surface, hein? Ouais. Mais en fait, ça repose sur un biais du survivant.
C'est-à-dire?
Bah, on regarde que les pages qui ont survécu, celles qui apparaissent dans les citations générées, et on oublie de regarder le point commun de toutes celles qui n'apparaissent jamais.
Ah, je vois.
C'est vrai qu'être dans le top 10 classique, ça garantit pas d'être sélectionné. Les algorithmes de langage, ils cherchent la nuance, la densité de l'info. Donc, ils peuvent très bien aller chercher un résultat qui est à la 40e place classique.
Il va chercher la pépite enfouie si elle répond mieux à la nuance de la question.
Exactement. Mais pour que le modèle puisse analyser cette 40e page, bah, il a fallu qu'elle soit découverte et stockée par les systèmes d'indexation de base avant.
Si on n'est pas indexé, on n'existe pas.
Zéro chance, ouais. Et c'est un enjeu énorme en e-commerce, parce que techniquement, une boutique en ligne, c'est un enfer pour un robot d'exploration.
Les fameux filtres de recherche.
Les filtres, les paginations infinies, les déclinaisons de taille, de couleur, ça génère des milliers d'adresses inutiles. Si l'architecture n'est pas assainie, le robot s'épuise, il repart et le contenu réel est jamais lu.
Et d'ailleurs, l'article illustre ça avec un exemple super concret sur le terrain. L'auteur parle d'un de ses clients, un vendeur de compléments alimentaires. Le gars génère 25 000 euros par mois juste avec son référencement classique.
Un beau score.
Ouais, son site est nickel techniquement. Pour lui, allouer du budget à l'optimisation générative, c'est la suite logique. Mais à côté de ça, le cabinet audite des boutiques qui exigent d'être sur les nouveaux moteurs conversationnels alors que leurs pages catégories font 50 mots.
C'est ridicule, ouais.
Et leur fiche produit, bah, c'est un vieux copier-coller du fournisseur.
Bah, mathématiquement parlant, comment un algorithme de langage pourrait identifier cette boutique comme une référence si le texte est identique à la virgule près à celui de 200 autres sites?
C'est impossible.
Un modèle génératif, ça calcule des probabilités de mots. Si ton site apporte aucun vocabulaire distinctif, aucune donnée chiffrée propre, bah t'es juste un bruit de fond statistique. Optimiser pour le génératif dans ces conditions, c'est peindre des murs qui n'existent pas encore.
Donc, une fois qu'on a compris que ce socle technique et sémantique est indispensable, le vrai défi pour les marchands, c'est de savoir quand basculer, à quel moment la fondation est assez solide. Et là, le document de Samy B apporte une réponse hyper chiffrée.
Ouais, son cadre de priorisation.
Se base pas sur le trafic, mais sur l'argent, la part du chiffre d'affaires global généré par l'organique.
C'est malin, parce que ça élimine les biais des pics de trafic non qualifiés. Son framework, il définit des paliers. Le premier palier, c'est pour les boutiques où le naturel fait moins de 20% du chiffre d'affaires.
Et là, la consigne est stricte.
Hyper stricte. Zéro budget pour le génératif. Tout doit aller dans la correction des bases classiques.
Et la checklist de ce palier 1, elle rigole pas.
Des pages catégories avec au moins 300 mots uniques, donc fini les grilles d'images sans texte, réécriture de toutes les fiches produits, et surtout, la règle des trois clics.
Ah, la règle des trois clics, c'est vital.
Ouais, chaque produit doit être accessible en trois clics max depuis l'accueil.
Pourquoi c'est si important, cette profondeur hiérarchique?
Bah, c'est lié à ce qu'on appelle le budget crawl. Un robot a un temps limité pour visiter un site. Plus un produit est enfoui, plus le robot a de chances de l'ignorer. Si tu aplatis l'architecture, la popularité de la page d'accueil ruisselle vers chaque produit et tout le catalogue est lu.
D'accord, donc ça c'est l'assainissement mécanique. Ensuite, on a le palier 2. Là, c'est pour les sites entre 20 et 40% de revenus organiques. C'est la transition. L'entreprise garde 80% des efforts sur le socle, mais dirige 20% vers les nouveaux algorithmes.
Et ces 20%, ça tourne beaucoup autour des données structurées. En gros, on va rajouter des petits bouts de code qui parlent la langue native de ces modèles génératifs.
Genre les balises FAQ pour les foires aux questions.
C'est ça, baliser une section FAQ ou tutoriel, ça prémâche le travail de l'algorithme. Il n'a plus besoin de deviner que tel texte est une réponse à telle question, on lui sert sur un plateau. Et c'est aussi là qu'on commence à rédiger des gros guides d'achat avec des comparatifs maison.
Pour lui donner de la matière citable.
Exactement.
Et donc on construit l'autorité jusqu'au palier 3. Là, on est à plus de 40% de revenus organiques. La boîte peut enfin envoyer le gros budget sur le géo. Et c'est là que l'article lâche une stat de Bright Edge qui m'a bluffé.
La stat sur la vidéo?
Ouais, une augmentation de 121% des citations de vidéos YouTube dans les réponses générées pour l'e-commerce. 121%.
Ça montre à quel point les gens se trompent sur ces algorithmes. Historiquement, on pense que l'optimisation, c'est juste du texte.
Bah oui, on pense mots-clés, articles de blog.
Sauf que les nouveaux modèles, ils sont multimodaux. Ils lisent pas juste du texte, ils ingèrent et décortiquent des formats complexes.
Mais comment un algorithme textuel peut comprendre une démo vidéo?
Par des extractions successives. Le modèle va lire la transcription audio, analyser les sous-titres, les métadonnées, le chapitrage, et même, il analyse les images clés de la vidéo pour capter le contexte visuel.
C'est fou!
Du coup, pour un marchand mature, faire des vidéos de test ou de démo, ça devient une arme massive. C'est une porte d'entrée énorme qui est encore ignorée par la concurrence. Parce que faire de la belle vidéo, bah c'est plus dur que d'écrire un article de blog.
Ouais, la barrière à l'entrée est haute. Donc la vidéo devient un pilier. Mais ça soulève un gros problème de sous. Tu investis dans la vidéo, les données structurées, les guides. À la fin du mois, ton patron veut voir ce que ça a rapporté concrètement. Et là, l'analyse classique, elle plante.
Complètement. Le modèle classique, c'est super linéaire. Une recherche, des liens bleus, un clic, un ajout au panier, un achat. Tout laisse une trace parfaite dans les outils de stats.
Le chemin parfait où tu sais que tel euro a rapporté tant.
Voilà. Sauf que ce chemin, il disparaît avec l'optimisation générative. La personne demande la meilleure routine pour peau sèche. L'algorithme lui fait un résumé, explique les actifs, et cite une marque comme la référence absolue.
Et c'est là que l'article lâche le chiffre qui fait mal. Le taux de clic direct sur ces liens générés, c'est moins de 1%.
Moins de 1% de clic, ouais.
Bah, c'est logique, en fait. L'algo a déjà tout résumé, pourquoi l'utilisateur irait cliquer pour lire la même chose?
Son besoin est comblé directement sur la page.
Bah oui. Mais du coup, question provocatrice. Si on n'a quasiment aucun clic, est-ce que le JO, c'est pas juste le nouveau mot à la mode pour faire des relations publiques classiques? De la notoriété pure, impossible à mesurer en vente?
Bah c'est une super remarque. Et l'auteur le dit lui-même. Le but de cette couche supérieure, c'est pas le trafic immédiat, c'est l'imprégnation de la marque.
L'imprégnation, ok.
Si tu fais 3 recherches complexes sur un produit et que la machine te cite toujours la même boutique comme référence, ton cerveau va retenir ce nom.
Et le jour où je veux acheter, j'ouvre un nouvel onglet et je tape direct le nom de la boutique.
Exactement. Sauf que dans le logiciel de stats du vendeur, ça va apparaître comme du trafic direct ou une recherche de marque. Le travail initial du moteur génératif, il est invisible.
D'où l'importance du cadre de priorisation financier. Faut avoir les reins assez solides pour payer un truc dont les résultats sont diffus.
C'est ça. C'est parfait pour passer de 200 000 à 400 000 euros de chiffre d'affaires, mais pas pour démarrer.
Ce qui amène un vrai risque pour les petits e-commerçants. L'article alerte sur l'éparpillement. Prendre un budget de, disons, 2000 euros par voie et mettre 500 euros en technique, 500 en article, 500 en lien et 500 en géo.
Ah, c'est la pire idée.
L'assurance de ne réussir nulle part.
L'impact d'un budget saupoudré comme ça, il est nul. Faut mettre les 2000 euros sur la réparation du socle et le maillage interne, point barre, jusqu'à ce que ça rapporte assez pour financer la suite.
Mais du coup, cette galère pour mesurer le retour sur investissement et la pression pour être cité, bah, ça pousse vers le côté obscur, non?
Ah bah forcément, ouais.
Les sources parlent d'un rapport de Microsoft de février 2026. Ils ont documenté 50 cas de manipulation des recommandations. Quand j'ai lu ça, ça m'a direct fait penser aux vieilles magouilles des années 2010.
Le fameux Black Hat, ouais. Le parallèle est hyper juste, même si la technique a changé.
En 2010, c'était le texte blanc sur fond blanc pour bourrer de mots-clés, c'est ça?
Voilà. Aujourd'hui, on parle de prompt injection, appliqué au web. Le but, c'est de tromper le système de prédiction du modèle.
Concrètement, ils font ça comment?
Ils planquent dans le code source des séquences de texte invisibles pour l'humain, mais conçues pour l'algorithme. C'est pas des phrases normales, c'est des structures mathématiques pour forcer le modèle à associer la marque à la requête.
Du piratage psychologique d'algorithme.
C'est exactement ça. Ils veulent forcer l'outil à dire que la boutique X a le meilleur produit, même si c'est faux.
Mais le rapport précise que les filtres de sécurité évoluent à une vitesse folle. Et l'auteur de Vanguard Edge est catégorique, ceux qui jouent à ça risquent des pénalités massives, genre la désindexation complète du catalogue.
Et le pire, c'est que ces magouilles sont inutiles face à l'évolution des algorithmes. L'article cite une étude d'Arxiv de 2025. Les chercheurs ont analysé 7000 requêtes e-commerce.
Pour trouver la formule magique qui plaît aux génératives.
Ouais. Et tu sais ce qu'ils ont trouvé comme combinaison gagnante? Une grosse autorité de domaine, des données chiffrées originales et une lisibilité structurelle parfaite.
Là, la définition exacte d'un bon vieux SEO classique, en fait.
Voilà. L'étude prouve qu'il y a une convergence algorithmique. Que ce soit un vieux robot ou le dernier modèle génératif multimodal, le but, c'est de trouver l'info la plus fiable et la mieux structurée. Les deux approches récompensent les mêmes efforts.
Ce qui valide à 100% la thèse de départ de Sami B. Il n'y a pas de choix à faire entre classique et génératif. C'est juste une chronologie. Il faut faire les choses dans l'ordre, assainir la technique, structurer l'offre et après, on modèle les données pour les algorithmes de synthèse.
C'est un cycle naturel. La base saine amène l'indexation qui amène le trafic. Ce trafic construit l'autorité et c'est cette autorité avec des données claires qui déclenche les citations dans les synthèses. Vouloir inverser ça, c'est jeter son argent par les fenêtres.
Clair et net. Bah écoute, cette analyse remet vraiment les idées en place au milieu de toute cette effervescence technique. Mais ça m'amène à une réflexion pour terminer.
Vas-y.
On voit que tout l'effort se déplace vers la structuration de données pour nourrir ces machines. Si demain,
Ces moteurs conversationnels sont capables de vérifier les stocks, de comparer les prix en temps réel, de lire tous les avis et d'acheter à notre place.
Ça va arriver super vite, ça.
Bah oui, mais du coup, qu'est-ce qui va se passer pour l'interface des sites web ? Est-ce que les e-commerçants vont arrêter de payer pour du beau design, des belles photos, des interfaces pour les humains ?
Ah, la fin de la vitrine, quoi.
C'est ça ! Est-ce qu'on va pas vers des boutiques qui seront juste des flux de données brutes, des catalogues invisibles dont le seul but sera de convaincre une machine d'acheter chez eux plutôt qu'ailleurs ? Je pense que c'est une vraie question pour les années à venir.